Et le journal est présenté par Marc Potvin. Bonjour Marc.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Londres et Bruxelles vont-ils acter l'échec des négociations sur un accord commercial post-Brexit ou bien vont-ils se donner une chance de plus ? Coup de fil ce midi entre le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne. Nous retrouvons notre correspondante à Bruxelles dans un instant. L'Allemagne décrète un confinement partiel à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier. Fermeture des commerces dits non essentiels ainsi que des écoles et des crèches. Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 croît de manière exponentielle outre-Rhin. Au moins 6 millions de Vénézuéliens ont participé à la consultation dite populaire qui s'est terminée hier, chiffre communiqué par l'opposition. Elle organisait cette consultation dont le but était surtout de relégitimer son chef de file. À la fin de ce journal, nous retrouverons Nabila Hamel et la face cachée du globe. Nous verrons que nos déchets plastiques sont convoités par la Turquie. Sauf nouveau rebondissement, la fin des négociations sur un accord commercial post-Brexit approche. La date butoir, c'est en effet aujourd'hui, date fixée par la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante de France Culture à Bruxelles, Ursula von der Leyen et Boris Johnson s'entretiennent ce midi au téléphone.
Absolument, il faut toujours rester très prudent ici. Hein. Rien n'est jamais totalement fini. Les enjeux, on le rappelle, sont considérables. Alors, les deux dirigeants s'étaient parlé en face à face en partageant leur dîner mercredi dernier. Ils avaient estimé qu'il était utile de se donner une toute dernière chance. Leurs équipes de négociateurs ont donc poursuivi leurs échanges jusque tard hier soir dans la nuit. Michel Barnier et David Frost se sont retrouvés brièvement ce matin. Mais les déclarations politiques étaient encore plutôt pessimistes hier à Bruxelles. On estime, hein, sans varier depuis des mois, que la et dans le camp de Londres, on dit avoir été au bout des concessions possibles, en particulier sur les conditions en échange desquelles les Britanniques pourraient continuer à vendre sans contrainte leurs marchandises dans notre marché unique. Alors, le Britannique Boris Johnson aura-t-il ces toutes dernières heures et ces derniers jours fait évoluer sur ce sujet crucial sa position ? Les Européens ont-ils finalement encore quelques cartouches en poche pour éviter une absence d'accord très redoutée par les milieux économiques ? C'est ce que l'on attend de savoir d'ici 13 heures. Un communiqué est attendu à l'issue de l'échange téléphonique en cours entre les deux dirigeants. Des deux côtés de la Manche, en tout cas, depuis quelques heures, on ne ferme plus la porte à une poursuite encore des discussions. La saga n'est donc peut-être pas finie.
En tout cas, Angélique, la perspective d'un no deal est à l'heure actuelle dans toutes les têtes.
Oui, et en cas d'échec, les Européens accélèrent leurs préparatifs. La Commission a ainsi proposé à Londres cette semaine de maintenir pendant quelques mois les règlements administratifs qui permettront, après le 1er janvier, aux avions, aux transporteurs routiers, aux bus de passagers, par exemple, de continuer à circuler entre les îles britanniques et le vieux continent pour éviter une véritable pagaille. La circulation de l'Eurostar a déjà fait, rappelons-le, l'objet d'un accord unilatéral entre Londres et Paris. Pour ce qui est de la pêche, l'autre sujet extrêmement sensible des négociations en cours et principal de domaine dans lequel les Britanniques sont en position de force. La Commission a proposé de maintenir pendant un an l'accès réciproque et continu aux zones de pêche. Autant de vous dire que dans le bras de fer actuel, Londres n'a pas accepté, plutôt montré les muscles en annonçant hier avoir mobilisé sa flotte militaire pour protéger ses eaux. La pression politique, vous le voyez, reste extrêmement forte des deux côtés.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. 120 personnes en garde à vue à Paris après la manifestation d'hier contre la proposition de loi sécurité globale, cortège sous très forte présence policière pour éviter que les incidents violents constatés lors des précédentes mobilisations ne se reproduisent. 85 rassemblements ont été recensés dans tout le pays. Quelques 60 000 personnes y ont pris part selon les organisateurs. Le ministère de l'Intérieur a lui compté un peu plus de 26 000 participants. Nous sommes à deux jours d'un déconfinement strict en France. De l'autre côté du Rhin, c'est le chemin inverse qui est emprunté. Bonjour Nathalie Versieux. Nathalie Versieux, vous êtes notre correspondante en Allemagne. Le pays décrète un confinement partiel à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier.
Oui, nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant. C'est ce qu'a expliqué la chancelière à l'issue de la rencontre de ce matin avec les ministres présidents des Länder, faisant allusion aux quelques 20 000 à 30 000 nouveaux cas d'infection quotidiens et aux quelques 350 à 500 morts par jour. Dès mercredi, les écoles et les jardins d'enfants seront fermés jusqu'au 10 janvier, de même que les commerces non essentiels. Il sera désormais interdit de vendre de l'alcool sur la voie publique, une mesure qui vise directement les stands de vins chauds qui sont apparus un peu partout dans les villes allemandes ces derniers temps. Les restaurants, les bars, les cafés et les institutions culturelles qui sont fermées depuis le début du mois de novembre ne rouvriront pas pour les fêtes et les effectifs devront être réduits au strict minimum autour de la traditionnelle oie rôtie de Noël. L'État fédéral et les Länder s'affrontaient depuis des jours sur la stratégie à mener face à la pandémie, alors que le nord de l'Allemagne semble relativement épargné face au sud et à l'ouest du pays, où 80% des lits en soins intensifs sont occupés par des patients du Covid.
Nathalie Versieux en Allemagne pour France Culture. 6 militaires arméniens blessés hier au Haut-Karabakh, annonce de l'Arménie ce matin. Blessure lors d'une violation du cessez-le-feu entre les forces de cette région indépendantiste et l'armée azerbaïdjanaise, l'Azerbaïdjan qui nie avoir mené une attaque et parle de provocation arménienne sur le terrain. Au Venezuela, l'opposition fait un premier bilan de la consultation qu'elle a organisée et qui s'est achevée hier. Consultation pour demander entre autres si les Vénézuéliens rejettent les élections législatives d'il y a une semaine. Scrutin largement remporté par le camp du président Nicolas Maduro et boycotté par ses adversaires. L'enjeu de cette consultation, c'était surtout de relégitimer le chef de file de l'opposition, Juan Guaido. Ses partisans revendiquent minimum plus de 6 millions de participants. En tout cas, à Caracas, la capitale, cette consultation n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme, Benjamin Delisle.
Sur la place Bolivar de Chacao, au lieu de l'opposition, il n'y a pas foule devant les quelques urnes en carton installées pour permettre à ceux qui le souhaitent de voter en présentiel. Maria Alexandra vient de le faire.
Il manque du monde, c'est sûr, pour faire acte de présence. Ce doit être à cause de la pandémie. Beaucoup de gens ont peur de sortir, sinon il y aurait plus de monde, j'imagine.
Pourtant, ce sont surtout des personnes âgées qui ont fait le déplacement. On se rassure en se disant que la participation en ligne, notamment pour les Vénézuéliens de l'extérieur, sera massive. Reste qu'à Caracas, c'est plutôt la désillusion qui domine face à la consultation. Armando, un assesseur, se veut pédagogue.
La gente tiene que entender.
Les gens doivent comprendre que ce n'est pas facile. On lutte contre un régime qui contrôle tout, qui domine toutes les institutions et qui agit de manière violente. Donc c'est très difficile, au travers d'une lutte démocratique, d'avoir un résultat rapide.
Lorsque Juan Guaido débarque pour une brève déclaration, il y a plus de journalistes que de votants sur la place. L'opposant assure tout de même que la participation est plus forte que pour les législatives de dimanche dernier.
Je crois que le grand contraste aujourd'hui, c'est la manifestation de la volonté des Vénézuéliens qui non seulement rejettent la fraude et la dictature, mais surtout réclament d'avancer vers la liberté des Vénézuéliens.
La volonté d'un changement ne fait aucun doute pour une majeure partie de la population. Ce qui est moins certain, c'est que Juan Guaido en soit toujours le symbole.
Benjamin Delisle, c'est une série qui a déjà séduit plus de 63 millions d'abonnés sur Netflix, du jamais vu dans l'histoire de la plateforme de vidéo à la demande. Le jeu de la dame retrace l'ascension spectaculaire d'une joueuse d'échecs jusqu'au titre de grand maître international, le grade suprême de la discipline. Série qui crée aussi des vocations. Adèle Belloumri, vous l'avez constaté dans un club d'échecs près de Tours.
Pas de nouvelle adhésion à cause du confinement au club d'échecs de Saint-Pierre-des-Corps, mais le succès de la série Le Jeu de la Dame a dopé la vente de jeux d'échecs du club. Michel Auffray, le président.
La série Le Jeu de la Dame a vraiment apporté une passion pour les gamins et les adultes par rapport aux jeux d'échecs que nous vendons. On en vend plus, oui. C'est vraiment impressionnant. Là, par exemple, cette semaine, on en a vendu une quinzaine. Depuis la rentrée, toutes les semaines, on en vend. Et encore plus avec le confinement.
Une quarantaine de jeux d'échecs vendus en un mois. À 12 euros, le stock s'épuise et forcément encore plus vite grâce à la série. Même les écoles privées de sorties scolaires en ce moment se rabattent sur les jeux d'échecs du club.
Et bien là, cette semaine, on a eu une commande de 13 échiquiers pour l'école République.
Les pièces viennent de Paris et les échiquiers, les plateaux, sont imprimés bénévolement à Saint-Cyr-sur-Loire. Jackie Morandière est le directeur de l'imprimerie La Tranchée.
C'est une impression sur du papier couché et après on fait faire un pelliculage dessus pour les plastifier pour que ce soit plus pratique à l'utilisation. Puis avec le pelliculage, ça les rigidifie. Ouais. On aide beaucoup d'associations, donc pourquoi pas celle-là ?
En juin 2021, le club d'échecs de Saint-Pierre-des-Corps devrait organiser le plus gros tournoi interscolaire de France avec plus de 500 élèves.
Reportage d'Adèle Belloumri de France Bleu Touraine. Midi 40 sur France Culture, voici la face cachée du globe. Direction d'abord la Turquie, Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour Marc. Qu'elle soit consommée à Paris, à Londres ou à Rome, une bouteille en plastique a de plus en plus de chances de finir sa vie en Turquie. Si des pays d'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et surtout la Chine refusent désormais d'être les poubelles de l'Occident et retournent souvent à l'envoyeur leurs conteneurs de déchets, la Turquie en importe et sur place les défenseurs de l'environnement dénoncent d'ailleurs la multiplication des décharges sauvages. Anand Lauer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Istanbul. Peut-on connaître les raisons qui poussent la Turquie à importer les déchets plastiques des pays européens ?
Eh bien, elle les importe pour les recycler et donc créer des matières premières utiles à son économie. Les importations de plastique auraient ainsi rapporté 770 millions de dollars à la Turquie en 2019. Plus de 6 fois le coût de ses importations. La Turquie fait ça depuis longtemps, mais ce qui a changé depuis début 2018, c'est que les gros importateurs asiatiques, à commencer par la Chine, ont cessé d'acheter la plupart des déchets recyclables.
Les pays européens se sont donc tournés en priorité vers la Turquie et il y a des chiffres de plus en plus impressionnants.
En effet, l'an dernier, la Turquie importait environ 48 500 tonnes de déchets par mois, contre 33 000 tonnes en 2018 et seulement 4 000 tonnes avant 2018. Rien qu'en 2019, le pays en a reçu plus de 582 000 tonnes, principalement du Royaume-Uni, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne et de France. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 213 camions remplis de déchets plastiques qui entrent chaque jour en Turquie. Mais tout n'est pas recyclé et cela se traduit par des emballages du géant français du surgelé Picard ou des sachets de la chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's gisant dans des décharges sauvages régulièrement découvertes par des ONG de défense de l'environnement.
Vous dites qu'a priori le principe est de recycler ces déchets, pourquoi les retrouve-t-on parfois dans la nature ?
Eh bien parce que la Turquie ne dispose quasiment d'aucun cadre législatif pour gérer ces importations massives de poubelles européennes. L'ONG Greenpeace dénonce des contrôles sommaires aux frontières et à l'intérieur du pays une fois que les déchets ont été pris en charge par des sociétés de recyclage. Il arrive par ailleurs que ces sociétés, qui travaillent sous licence des autorités, n'aient finalement pas les moyens de recycler tout ce qu'elles importent. Rien ne les empêche alors de revendre leurs déchets à des entreprises qui, elles, n'ont pas de licence. Depuis peu, les autorités turques commencent enfin à réagir. Elles ont ordonné en septembre aux compagnies du secteur de limiter leurs importations de déchets recyclables à 50% de leurs besoins, contre 80% auparavant, et de s'approvisionner localement pour le reste. Mais les ONG réclame, elle, une interdiction totale des importations de déchets plastiques.
Anand Lauer, merci à vous. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Istanbul. Il a été interrompu en décembre dernier le chantier controversé du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l'Allemagne a repris vendredi et ce malgré une nouvelle mise en garde de l'administration Trump qui avait déjà brandi la menace de sanctions. À Moscou, la correspondance de Claude Brouillot.
À raison d'un kilomètre par jour, à une profondeur de moins de 30 mètres, les travaux qui viennent de reprendre dans les eaux allemandes seront terminés dans moins d'une semaine si l'on en croit les agences de presse russes. La reprise du chantier, un an après son interruption, est évidemment liée au contexte politique américain. L'Allemagne et la Russie, principaux financeurs du projet avec également le groupe français Engie, anticiperaient à travers ce banc d'essai un assouplissement de la position américaine sur le dossier de Nord Stream 2 qu'elle ne s'y prendrait sûrement pas autrement. Pourtant, à l'heure actuelle, la seule réaction de Washington est plutôt négative. Elle est venue de l'ambassade des États-Unis en Allemagne qui a demandé un moratoire sur la question à l'Union européenne, sachant que principalement les pays baltes, la Pologne et évidemment l'Ukraine sont toujours fortement opposés à la construction de Nord Stream 2. En dehors des quelques kilomètres de pose du pipeline dans les eaux allemandes, il reste un dernier tronçon de 130 km à installer dans le périmètre danois, soit une fenêtre d'environ un mois et demi de travaux. À Moscou, les défenseurs de Nord Stream 2 font valoir le fait que l'opposition des Américains, sous couvert de dénonciations des risques de dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, vise surtout à essayer de conquérir le marché du gaz en Europe. L'argument de Donald Trump consistait à refuser de financer via l'OTAN une part de la défense de l'Allemagne, notamment contre l'ennemi conventionnel russe, tout en voyant la Russie accroître son influence grâce à l'augmentation de ses ventes gazières. Reste à savoir jusqu'où cette analyse trouvera encore un écho auprès de la future présidence démocrate américaine.
À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Hamel, votre face cachée du globe est à réécouter sur franceculture.fr. La météo, c'est d'abord cette vigilance orange crue dans trois départements du sud-ouest. La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, vigilance qui vaut au moins jusqu'à demain matin. Cet après-midi, il pleut de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France, nuages des Pays de la Loire au Grand Est. Ailleurs, c'est un soleil voilé ou bien du soleil tout court.